Bon, la ministre Stéphanie Vallée a présenté hier ce qu'on appelle les lignes directrices concernant et qui accompagnent le projet de loi sur la neutralité de l'État. Elle a dit hier que les demandes de ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, ce sera du cas par cas et que les gens qui ont à prendre la décision devront s'inspirer et pourront s'inspirer de ces lignes qui sont quand même assez floues, je dois dire. Là, il y a des grands principes, là, respecter l'égalité homme-femme. Il faut également que cette demande soit fondée sur une croyance sincère. J'en parle avec Louis-Philippe Lampron, qui est professeur en droits et libertés à l'Université Laval. Monsieur Lampron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Quand vous lisez les directives qui sont données par la ministre, est-ce que vous croyez qu'à la lumière de ça, quelqu'un qui est appelé à prendre une décision sur un accommodement est suffisamment équipé pour prendre une décision, là, je dirais, très claire, très précise?
Bien, très clair, très précise, non. C'est-à-dire que l'accommodement raisonnable, ça doit se décider au cas par cas parce que ça dépend pour qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qui est une contrainte excessive. Ça va dépendre des caractéristiques du demandeur, des caractéristiques de l'institution. Puis ça varie au gré des demandeurs et des institutions. Maintenant, est-ce qu'il est bien équipé? Écoutez, il est mieux équipé au sens où les balises qui se retrouvent dans le document, bien, elles existaient déjà. Il y a rien qui change à l'état actuel du droit, mais elles se retrouvaient éparpillées un petit peu partout dans la jurisprudence, la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel, etc. Alors, le fait de ramasser ça dans un seul document, là, uniquement là, sur le document des directives, là, parce qu'il y a plein d'autres problèmes avec le projet de loi 62, bien, ça a une vertu pédagogique qui est intéressante pour les gestionnaires.
Okay, mais oui. J'allais vous demander, quand une des directives, ça stipule que l'accommodement demandé doit permettre à l'État de demeurer neutre, ça veut dire quoi, ça?
Ah ben voilà, ça c'est tout l'autre problème en fait, c'est que le projet de loi 62, la ministre Vallée puis le gouvernement Couillard ont annoncé des choses qu'ils ne font pas. Ils ont annoncé qu'ils allaient établir des balises claires, alors que dans les faits, puis là, c'est la confirmation avec les directives, ils se contentent de rappeler celles qui existent déjà dans l'état actuel du droit. Donc ils établissent rien de nouveau. Ils précisent pas ce qu'est la neutralité religieuse de l'État et là-dessus on reconfirme autant pour la neutralité religieuse de l'État que pour les demandes d'accommodement qui pourraient être formulées par un fonctionnaire par rapport à son employeur ou par un bénéficiaire de services publics, qu'on va juger les demandes à leur mérite, en fait. Alors, grosso modo, là, si on n'a pas adopté le projet de loi 62, puis que ce matin, vous me parlez, puis vous voulez savoir comment ça se gère une demande d'accommodement dans l'espace public, bien, il n'y a absolument rien qui a changé, si ce n'est une petite chose, c'est que maintenant, le projet de loi 62 prévoit qu'il est possible de refuser d'accommoder une femme qui porte un niqab ou une burqa pour des motifs liés à la communication. Pour le reste, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc.
OK. Prenons un exemple concret qui a fait la manchette. Martin Prudhomme, qui est le directeur du SPVM, s'est fait dire par la mairesse, Mme Plante, s'il y a une demande, par exemple, d'une policière qui veut porter le hijab ou un policier qui veut porter le turban, c'est à lui de décider. À la lumière de ce que vous voyez et comprenez, est-ce que M. Prudhomme a le choix, par exemple, de refuser un tel accommodement?
Ben, c'est toute la question de la compatibilité du compromis Bouchard-Taylor, hein, qui rappelle que la proposition qui avait été faite, c'est que les fonctionnaires en situation d'exercer la contrainte étatique, là, comme les policiers, les gardiens de prison, etc., on pourrait justifier de les empêcher de porter un symbole religieux. Là, la question, c'est de savoir est-ce que ça, c'est conforme à la Charte canadienne. Le projet de loi 62 change absolument rien, puis outille pas M. Prudhomme d'une manière ou de l'autre par rapport à cette question-là qui est très épineuse. Et on ne sait toujours pas, dans l'état actuel du droit, si... Ben, en fait, on connaît la position gouvernementale. C'est-à-dire que le gouvernement ne voulait pas du compromis Bouchard-Taylor. Dans les directives, là, c'est prévu noir sur blanc que les fonctionnaires peuvent porter des signes religieux sur le lieu de travail. Il est même prévu expressément, la page 13 du document, qu'un fonctionnaire pourra porter un niqab ou une burqa. Hein? Du raccommodement raisonnable. Là,
Attendez. Un fonctionnaire pourrait porter une burqa?
Oui, ben c'est-à-dire que on parle des grosso modo, là, on revient au point de départ parce que le projet de loi 62 là, qui est devenu complètement bancal. Le problème, c'est que la version initiale, la disposition qui concernait on parle des symboles qui ouvrent le visage, mais à part le niqab et la burqa, là, j'en vois pas d'autres là. Alors qui interdisait le niqab et la burqa autant pour les fonctionnaires que pour les bénéficiaires de services publics. La première version prévoyait la possibilité d'obtenir un accommodement. Ensuite, on passe à la deuxième version, celle qui a été adoptée, et là la disposition qui concernait ça, ben ça soudainement, on avait l'impression là que c'était une interdiction mur à mur, ce qui avait amené la ministre Vallée à faire sa déclaration un peu malheureuse, là, disant que le niqab là, devrait être retiré pour tout le trajet d'autobus, etc., puis à se rétracter, enfin bon, peu importe. Mais grosso modo, on revient à la version initiale. C'est pour ça que c'est comme un interminable détour pour aller nulle part, parce que on confirme le fait qu'une fonctionnaire qui pour des motifs religieux, croirait sincèrement devoir porter un niqab ou une burqa, là, un symbole religieux qui couvre le visage, ben on va gérer la demande au cas par cas, puis on va pouvoir refuser cette demande-là s'il y a des motifs liés à l'identification, à la sécurité ou à la communication. Mais donc, de dire que on va gérer la demande au cas par cas, à l'inverse, c'est donc de dire qu'il serait possible qu'un employé de l'État puisse porter un niqab ou un burqa.
Dernière question. non, mais je voulais vous dire, s'il n'y avait pas ce projet de loi, s'il n'y avait pas toutes ces directives, je reprends ma question. Est-ce que la loi et les directives changent quelque chose par rapport à ce qui existait avant? J'ai l'impression que non.
Ben non. La seule chose que ça change, comme je vous dis, c'est pour ça que la contestation demeure d'actualité, parce que sinon, c'est une codification. Quand on parle de codification, est-ce qu'on prend les principes qui sont actuellement en vigueur en droit canadien, puis on les met dans une loi, on les codifie, on les intègre dans une loi. Sinon, c'est les mêmes, au début, la première page, vous irez voir, là, le gouvernement, pour la première fois, reconnaît que c'est un exercice de codification. Alors, ça change rien, sauf pour le motif de communication. On permettrait maintenant de refuser l'accommodement concernant le niqab ou la burqa pour un motif lié à la communication. Alors, ça nous amène à des questions tout à fait importantes. Hein. Pourquoi avoir légiféré si tant est que c'est un exercice pédagogique? Ben, pourquoi avoir pas simplement publié ce document-là dès le départ? Ça aurait pu atteindre l'objectif, c'est-à-dire d'éclairer les décideurs. Puis moi, surtout, pourquoi avoir donné l'impression qu'on interdisait un symbole religieux, le niqab et la burqa, qu'on n'interdit pas, dans les faits? Parce que ça demeure les mêmes principes, puis il va falloir voir dans quelle mesure est-ce que ça y a une contrainte excessive pour l'employeur.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée. Louis-Philippe Lampron est professeur en droit et liberté à l'Université Laval.